Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment converser avec les machines parlantes ? Il existe une grande diversité de machines numériques au statut fort différent. Ordinateurs, robots, applications, logiciels. Certaines de ces machines se contentent d'exécuter un algorithme invariable et ne communiquent jamais avec l'utilisateur. Mais d'autres apprennent, interagissent constamment avec lui, lui écrivent ou lui parlent en langage naturel. Ces machines écrivantes ou parlantes, on les appelle en bon français des agents conversationnels, des chatbots en anglais quelconque. Dans leurs versions les plus récentes, ces chatbots soulèvent de multiples questions d'ordre éthique, notamment, mais pas seulement, parce qu'en influençant le comportement des utilisateurs, ils participent à l'avènement de ce que l'on pourrait appeler une informatique affective, potentiellement manipulatrice. Que font au juste les chatbots? Que nous font-ils à nous-mêmes, mine de rien? À nos pensées? À nos émotions? À notre langage? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Alexis Greenbaum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien et philosophe, vous êtes membre du Comité National Pilote d'Éthique du Numérique, qu'on appelle le CNPEN. Et avant de vous interroger directement, je voudrais vous lire ce que m'a répondu un chatbot auquel j'ai posé la question suivante. L'intelligence artificielle peut-elle être éthique? Et je lui ai demandé de me donner la réponse en 10 lignes, que je vais vous lire. Il m'a répondu ceci. On le sait, les outils numériques sont omniprésents dans notre société. Ces avancées technologiques, loin d'être anecdotiques, bouleversent notre société, notre économie, et nécessitent une réflexion éthique. L'intelligence artificielle et les technologies du machine learning sont en train de transformer les modèles économiques dans de nombreux domaines. Cela est notamment le cas pour les services financiers, où les algorithmes sont capables de prédire les comportements des clients et de les conseiller avec la plus grande justesse. Mais ces applications sont également présentes dans de nombreux autres domaines, comme l'industrie automobile, la santé, le sport, la mode et même la politique. La question d'une gouvernance numérique se pose alors afin d'assurer le respect des droits et la protection des données personnelles. Fin de citation. Donc c'est un texte qui n'a été écrit par personne, enfin par une machine.
Par une machine, et mais ce serait pas mal pour une colonne dans un journal, non?
C'est parce qu'un article, enfin c'est assez équilibré et ça répond de façon assez consensuel à la question posée. Donc, quel statut faut-il donner à ce type de textes qui sont engendrés par des machines à partir de données qu'elles analysent?
Mais en fait, c'est pas par hasard que j'ai dit une tribune dans un journal, parce que c'est ce qui est arrivé. Les systèmes actuels, les systèmes de traitement de langage naturel, en particulier un système américain qui s'appelle GPT-3, a été déjà utilisé pour écrire une tribune dans un journal anglais, le Guardian, l'année dernière. Et donc on voit que ces systèmes peuvent presque remplacer certaines tâches de journalisme, et pas uniquement, ils peuvent être assurer un service après-vente, et ils peuvent être votre médecin, entre guillemets, qui vous fait un entretien médical. Ils peuvent réaliser tout un tas de tâches. Alors, où est-ce qu'on va? Et ça, cette question, le Comité national d'éthique, elle se l'est posée. Évidemment, il y a encore tout un tas d'usages que nous ne connaissons pas, qui vont arriver. Mais il y a déjà un peu de lumière et il faut commencer cette interrogation éthique dès maintenant. Pour savoir seulement comment change le marché de travail, mais pour savoir comment l'homme, lui, va changer du fait de son interaction avec ses agents conversationnels.
Mais alors cet article du Guardian que vous venez de citer, Alexis Greenbaum, est-ce que des gens se sont rendus compte en le lisant qu'il n'était pas écrit par un humain?
Il était tout de suite annoncé comme écrit par une machine et les gens étaient, malgré leur connaissance de ce fait, émerveillés. Et c'est ça ce qui va arriver. Très probablement, on ne va pas nous cacher que c'est une machine et nous ne pourrons quand même pas résister à des émotions, des réponses affectives, à un émerveillement, une fascination, tout en sachant que c'est une machine. Et c'est un peu la nouvelle donne de 2021. Il y a encore 3-4 ans, on nous disait, il suffit de dire que c'est une machine et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Eh ben non, on peut savoir que c'est une machine et pourtant réagir de manière émotionnelle et pourtant changer complètement d'esprit, peut-être devenir des êtres humains un peu différents.
Si je vous invite, Alexis Ribaud, c'est parce que vous êtes, en plus de ce que j'ai dit, co-rapporteur d'un rapport du Comité national pilote d'éthique du numérique, l'autre co-rapportrice étant Laurence de Villers. Et vous avez donc rendu, il y a quelques jours, votre avis, qui s'intitule « Agent conversationnel, enjeu éthique ». Alors, ma première question concerne votre méthode de travail. Comment est-ce que vous avez rassemblé des personnes et essayé de traduire dans ce rapport les recommandations qui ont été impulsées par le type de questionnement que vous avez reçu?
Alors, nous avons fait trois choses. La première, c'est auditionner des professionnels. C'est ce que font normalement les comités d'éthique. Il y a déjà pas mal d'industriels, par exemple, dans le secteur médical, qui créent des chatbots assez simples, finalement, où il n'y a pas beaucoup d'apprentissage machine. La deuxième chose, en 2020, en été et automne 2020, nous avons lancé une grande consultation publique et nous avons reçu plus de 100 réponses, alors provenant de toutes sortes de publics, d'étudiants, de professionnels, même des ministères, des entreprises grandes ou petites. Et donc, nous avions largement consulté les Français et au-delà aussi de la France, en Europe, sur ces questions-là. Et ensuite, et la troisième composante, j'y insiste quand même, nous avons réfléchi. Alors, nous avions créé un groupe de travail où chacun a réfléchi. Il avait des juristes, il avait des philosophes, il avait bien sûr des informaticiens, des sociologues. Nous avons essayé de se poser cette question, alors de nous poser cette question à nous. Qu'est-ce que c'est de converser avec un chatbot? Quelles conséquences? Quels changements? Quelles questions? Quelles contraintes? Et avec ces trois types d'input, nous avons produit un document qui, bon, quand même, je me permets de le dire, qui est le premier avis d'un comité d'éthique nationale sur les agents conversationnels. Là, la France est pionnière en cette matière. Comme en 1983, la France était pionnière pour créer un comité national d'éthique.
Mais il y a une saisine du Premier ministre qui a déclenché ce travail.
Bien sûr, cette saisine du Premier ministre, elle portait sur trois sujets différents. Et le comité national pilote d'éthique du numérique a déjà rendu un avis sur la voiture autonome. Maintenant, c'est l'avis sur les agents conversationnels. Et le dernier, qui sera publié dans quelques mois, va porter sur le diagnostic médical. Donc la saisine du Premier ministre était assez générale, c'était un moment de lancement de ce comité national pilote d'éthique du numérique. Et ce texte, qui fait une trentaine de pages, est une première mondiale sur les chatbots.
À quelle vitesse évolue la technique associée aux chatbots? Est-ce que vous êtes vous-même surpris par l'évolution de leur performance?
Une vitesse absolument incroyable. Alors, nous avons commencé à travailler sur les chatbots dans ce petit groupe de travail entre chercheurs en 2018. Alors, en 2018, les systèmes actuels, les systèmes que nous avons en 2021, n'existaient pas. Alors, quelque chose s'est passé entre les deux. Je peux même dire que c'est une révolution, l'avènement des réseaux d'un type, excusez-moi ce mot technique, de type transformer. C'est une architecture bien précise des réseaux de neurones, donc des systèmes apprenants, qui a permis des systèmes géants qui apprennent sur des masses absolument gigantesques de données, mais qui a permis de générer du langage naturel, du texte, pratiquement indistinguable de ce que fait l'homme. Vous avez commencé par lire un extrait généré par une machine, et ça aurait pu être écrit par un être humain. Cela, c'était encore impensable il y a trois ans. Et justement, ça c'est un des aspects très intéressants, ces machines parlent parfois trop bien. Elles ne font pas de raccourcis, elles ne font pas de petites fautes que nous, les êtres humains, nous faisons, bien sûr. Alors, est-ce qu'en conversant avec une machine comme cela, nous allons parler toujours avec les bonnes formes de verbes, avec peut-être du passé simple bientôt, non? Un retour du subjonctif de l'imparfait.
L'imparfait du subjonctif, j'en ai pas vu.
Subjonctif, voilà. Donc, ces machines parlent bien et parfois, cela se sent. Vous imaginez un dialogue avec un être amoureux, avec quelqu'un que vous aimez. Normalement, ce sont des petites phrases courtes, des petites phrases que l'autre comprend très très bien. Et si vous dialoguez avec un assistant virtuel, avec cette espèce de personnage virtuel qui est votre meilleur ami, parfois, il va se permettre des phrases très complexes, avec de la grammaire élaborée. Et c'est pas comme ça qu'on parle avec un être cher. On n'utilise pas ce genre de phrases. Donc, il y a de l'inhumain dans la manière dont parlent les agents conversationnels. Et ces éléments inhumains ne sont pas anodins. parce que en dialoguant de plus en plus avec les chatbots, bien sûr, nous allons nous aussi les imiter.
Est-ce qu'on a déjà observé, Alexis Rimbaud, une modification de nos façons de parler, en tout cas chez ceux qui utilisent régulièrement des chatbots?
Alors, il y a quelques petites études, mais c'est un début. Hein. Bon, même avant les chatbots, déjà, quelque chose qui est venu dans notre monde humain à partir de celui des machines, c'est le langage SMS. Alors, si nous écrivons aujourd'hui en langage SMS, en ces valeurs de compression de l'information, de condenser les mots, de laisser tomber tout ce qui n'est pas nécessaire pour comprendre le sens, ça, ce sont des valeurs machiniques, hein. Des valeurs, des systèmes de traitement automatique d'information, tandis que maintenant les hommes utilisent le langage SMS, bon, les hommes et les femmes, ça marche. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un autre exemple qui pour moi est beaucoup plus problématique. Vous connaissez probablement ces logiciels en ligne, je ne vais pas prononcer les mots commerciaux des marques, mais quand vous utilisez un moteur de recherche ou un programme de messagerie, vous commencez à taper une phrase et la machine complète la phrase pour vous. Elle vous propose de la compléter automatiquement. Eh ben, étudiez bien, regardez bien ce qu'elle écrit. Elle n'utilisera pas de pronom personnel genré. Alors, il ou elle, ou en anglais, même si vous parlez anglais, he ou she, elle ne dira jamais. Et je n'ai pas vu Pierre depuis longtemps, vous allez taper. Et vous vous attendez à ce qu'elle vous propose comment va-t-il? Eh ben non, elle proposera comment ça va, ou des phrases neutres. Mais jamais les pronoms personnels genrés, parce que les concepteurs de
ces... Ils ont éliminé.
Ils ont éliminé à la main ces pronoms genrés. Pourquoi? Eh ben, parce qu'ils ont peur que le pronom genré ne sorte pas correctement, que pour un mot comme par exemple docteur ou ingénieur, on mette un elle à la place de il ou il à la place d'elle, et bah, que l'utilisateur ne soit pas content. Et donc, les concepteurs ont préféré d'éliminer complètement ces pronoms genrés et qui pourtant font partie de notre langue.
Moi, je donc, crois elle ne parle pas tout à fait en langage dit naturel. Voilà, elles l'ont transformé.
Tout à fait. Qui nous paraît très naturel, mais qui en fait est épuré artificiellement. Et il est un peu ajusté par les concepteurs. Et ces éléments-là, justement, risquent par imitation d'entrer dans notre vie. Un enfant qui discute avec un chatbot et qui apprend une telle langue, enfin le français ou l'anglais, quelle que soit la langue, en discutant avec un chatbot, est-ce qu'il va encore utiliser les pronoms personnels genrés?
Est-ce qu'il va comprendre la poésie?
Alors là, c'est intéressant, parce que vous avez prononcé le mot « comprendre ». Et c'est un mot qui nous distingue, nous, les êtres humains, des machines. Les machines ne comprennent rien, mais elles peuvent bien sûr créer chez nous une illusion qu'elles aient compris quelque chose. Les machines fonctionnent de manière statistique, donc c'est l'apprentissage statistique sur de très grandes masses de données. Et c'est à la fois, le résultat, il est à la fois ressemblant et nouveau. C'est-à-dire, vous prenez une phrase fabriquée par la machine, vous la cherchez dans un moteur de recherche, vous ne la trouvez pas littéralement. Et pourtant, cette phrase, bien sûr, a été fabriquée de petits bribes, des mots, de quelques autres phrases que la machine avait trouvées sur Internet et qu'elle avait utilisées pour son apprentissage. Et donc, c'est une procédure statistique. Elle crée chez nous, elle est très différente de la manière dont les hommes et les femmes, nous, les êtres humains, nous utilisons la langue. Nous croyons comprendre la signification. Il y a des mots très, très intéressants. Signification, comprendre. Tout cela est complètement étranger pour la machine. Elle ne connaît pas les significations, elle ne comprend rien. Elle produit du texte. Et pourtant, nous, quand le lisons, nous sommes émerveillés.
Mais quand les machines produisent du texte, est-ce que ces textes produits par les machines font partie des données qu'utilisent les machines pour s'éduquer?
Non. Ces textes sont très souvent nouveaux. Ils sont reconstruits par les machines, ou pas reconstruits, mais construits tout court, devrais-je dire, à partir des données d'apprentissage. La machine ne va pas répéter, enfin ça dépend bien sûr des paramètres d'apprentissage, mais les meilleures machines d'aujourd'hui, ces systèmes de type transformer dont j'ai déjà parlé, ne vont pas répéter mot à mot les phrases apprises. Après, vous pouvez aussi faire des chatbots comme on en fait aujourd'hui dans l'industrie, très différent, sans apprentissage, sans rien, juste des chatbots qui sont, comme on dit techniquement, des arbres de décision, des systèmes complètement déterministes. Évidemment, ce chatbot-là va toujours vous donner la même réponse si
par
vous
exemple,
lui demandez.
Par exemple, pour faire des dossiers médicaux.
Voilà, par exemple, comment faut-il prendre tel médicament? Alors, quelle est la dose? Eh ben, vous avez l'intérêt de faire un chatbot qui va toujours donner la même réponse, parce que c'est ça la bonne dose. Qu'il ne va pas inventer des doses qui peuvent quand même qui peuvent quelque part créer des soucis pour la personne. Donc, selon le secteur applicatif, selon l'utilisation, la manière d'utiliser ces chatbots, il faut toujours se poser la question. Est-ce que je fais un chatbot qui va inventer, qui va fabriquer du contenu peut-être très intéressant, mais que je ne contrôle pas? Ou est-ce que j'ai envie de faire un chatbot que je contrôle complètement, qui est déterministe et vérifiable? Et en fonction des secteurs industriels, en fonction des tâches, cette question n'aura pas la même réponse.
Mais ça veut dire, si je comprends bien Alexis Rinbaum, que tous les chatbots sont spécialisés. Autrement dit, vous ne pouvez pas aborder n'importe quel thème avec n'importe quel chatbot.
Eh ben non, pas tous les chatbots sont spécialisés. Bien sûr, quand vous appelez un service après-vente ou quand vous demandez des conseils médicaux, c'est un chatbot spécialisé. Mais il y a aujourd'hui déjà, il y a des applications, il y a des systèmes sur Internet, des chatbots généralistes qui peuvent parler de tout, des assistants personnels, des personnages virtuels. Vous pouvez juste converser sur n'importe quel sujet. Et là, on a besoin de ces systèmes dits transformers, des systèmes extrêmement performants, parce que ces systèmes seront capables de parler de tous les sujets.
Est-ce que c'est pas effrayant?
C'est fascinant. Fascinant, ça ne veut pas dire que c'est pas effrayant. Mais c'est clair qu'on va vers un monde différent. On s'achemine vers un monde où un adolescent qui a peut-être quelques troubles psychologiques ou qui se sent un peu seul, il va discuter avec un personnage virtuel, ce sera peut-être son meilleur ami. La même chose en psychiatrie, alors est-ce que les psychanalystes et les psychiatres, est-ce que nous en avons encore besoin ou est-ce que la machine peut remplacer un psychanalyste? Bonne question à étudier.
Dans le rapport d'ailleurs, vous dites que certains patients préfèrent parler à un chatbot parce qu'il n'y a pas de jugement moral. Et ils se sentent plus libres de parler que s'ils parlaient directement à un psychiatre.
Tout à fait. Et comme autrefois, on préférait, parfois, certains êtres humains préféraient parler avec des dieux, avec des esprits, avec des oracles, certains aujourd'hui préfèrent parler avec une machine. Et ça a un vrai effet thérapeutique sur ces gens-là. Donc il y a toutes sortes d'usages et parmi ces usages, ceux qui m'intéressent philosophiquement et éthiquement sont bien sûr ces chatbots généralistes qui peuvent pas seulement vous faire un conseil après-vente pour tel ou tel produit, mais qui peuvent parler de tous les sujets.
Qu'est-ce que c'est que l'effet dit Elisa ?
Alors, l'effet Elisa, on vient de parler des chatbots en psychiatrie. C'est une première expérience de Joseph Weizenbaum. Dans les années 60, il a créé un chatbot qui était très très simple, évidemment, très éloigné des systèmes que nous avons aujourd'hui. Pas d'apprentissage comme aujourd'hui, pas de grande masse de données. Et pourtant, ce chatbot qui discutait avec des patients, avec des personnes qui avaient besoin d'un traitement psychiatrique ou psychanalytique, enfin, il était très bon. Il parvenait à guérir quelque part des patients. Et donc on voit que même une machine simple peut avoir un effet profond sur la psyché humaine.
Est-ce qu'un chatbot peut mentir? Évidemment oui, mais quand il ment, il ne sait pas qu'il ment.
Exactement.
Est-ce que les concepteurs des chatbots doivent veiller, donc par des mesures techniques disons, à empêcher que les chatbots mentent, ou est-ce que on peut se dire que finalement mentir c'est pas toujours quelque chose de condamnable d'un point de vue moral?
Alors là, vous soulevez une grande question qui fait partie justement de notre avis, qui est discutée longuement dans l'avis. Alors partons de ce constat qui est très juste, vous l'avez dit, un chatbot ne sait pas qu'il ment. Sauf si on l'a équipé de procédures spéciales, de routines spéciales pour évaluer la vérité de quelques énoncés. Encore faut-il voir s'il est possible pas d'évaluer de manière automatique la vérité. Parce que la vérité pour une machine n'est qu'un mot, entre guillemets. C'est comme la fausseté aussi. Faux, c'est entre guillemets faux. La machine ne sait pas quel est le sens derrière. Elle n'a pas de modèle de la réalité, de modèle du monde. Alors, que doivent faire les concepteurs? C'est votre deuxième question. Là, c'est assez compliqué. Il me semble qu'un concepteur ne pourra jamais garantir que son chatbot ne mentira pas. Il faut bien sûr avertir l'utilisateur. Il faut éviter des conflits sérieux, des conflits qui peuvent avoir des conséquences profondes sur l'utilisateur. Mais il y a des situations où le mensonge, même socialement, même entre les êtres humains, où le mensonge est possible par pudeur, par exemple. Bon, parfois on dit, écoute, je suis au téléphone, et en fait, peut-être que vous êtes en train juste de vous lever de votre lit le matin, ou des choses comme ça. Donc, il y a bien sûr des situations quotidiennes où on fait des petits mensonges, même nous, les êtres humains. Alors, comment apprendre tout cela à un chatbot? Ce n'est pas possible, on ne peut pas encoder toutes nos règles d'utilisation du vrai et du faux. On ne peut pas faire du code informatique là-dessus. On peut faire que de l'apprentissage, tout en sachant que l'utilisateur, quelque part, devrait être conscient du fait que c'est une machine qui parle, et une machine, elle ne sait pas distinguer le vrai du faux.
Vous rappelez dans votre rapport, Alexis Rimond, que l'histoire des agents conversationnels, les chatbots, prend ses origines dans le jeu de l'imitation d'Alan Turing, qu'il a proposé en 1950, peu de temps avant sa mort. Il a proposé ainsi un test d'intelligence pour une machine à travers la capacité à dialoguer en langage naturel. Donc une machine est intelligente si un homme qui dialogue avec elle ne se rend pas compte que c'est une machine.
Alors ça, c'était la définition de Turing. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué, parce que déjà, si on prend les chatbots actuels, les chatbots très performants, et on limite le temps de parole, le temps de dialogue, par exemple, on donne juste 2 minutes. Pendant 2 minutes, vous allez bien sûr être trompé. La machine aujourd'hui, c'est construire un dialogue pendant 2-3 minutes qui est absolument parfait, qui est totalement indistinguable du dialogue humain.
Et après?
Mais après, ou peut-être au bout de 10 minutes, ou au bout de 15 minutes, vous allez sentir quelque chose d'étrange, de bizarre. Vous allez vous demander ce qui se passe. Donc, le test de Turing, dans sa version originale, ne met pas de contrainte sur la longueur de la conversation. On sait que cette contrainte sur la longueur, elle est aujourd'hui essentielle.
Alors justement, si je peux le rappeler, Alan Turing, lui, avait prédit qu'en 2000, en l'an 2000, les machines seraient capables de tromper environ 30% des juges humains durant un test de 5 minutes.
Et on y est déjà.
Lui, il avait prédit pour 2000.
Alors, en 2000, 30%, je ne suis pas sûr, mais aujourd'hui, en 2021, c'est clair que le test du Turing, c'est bon, les machines le passent.
Mais est-ce que ça suffit à dire qu'elles sont intelligentes?
Ah, voilà, ce mot d'intelligence. Alors, vous savez ce qui se passe avec ce mot d'intelligence? À chaque fois qu'on franchit une nouvelle étape, on repousse un tout petit peu encore la définition de ce que c'est que l'intelligence.
On la sépare de l'intelligence humaine.
Intelligence 1950, oui, les machines sont intelligentes dans la version 1950.
Elles résolvent des
problèmes. On a un peu repoussé la définition d'intelligence. Paraît-il aujourd'hui qu'il faut que la machine puisse elle-même se donner des objectifs ou des buts. Ce que la machine, bien sûr, ne sait pas faire.
Et faire preuve d'esprit critique aussi.
En tout cas, elle peut créer une illusion d'avoir un esprit critique, mais elle a du mal à se donner ses propres objectifs. Elle peut peut-être parler comme si c'était un objectif, mais elle ne sait pas du tout ce que c'est qu'un objectif. Donc
résoudre des problèmes ne suffit pas à démontrer qu'on est intelligent.
En tout cas, résoudre les problèmes, le problème de Turing, le problème du jeu d'imitation de Turing, ne suffit pas à démontrer qu'on est intelligent selon la définition 2021 de l'intelligence. Mais la définition 2030 sera peut-être encore différente. On va voir.
Alexis Guénon, je connais bien votre intérêt pour les mythes. En quoi est-ce que les mythes peuvent nous aider à traiter de ces questions et même à les poser?
Ah, alors, merci pour cette question, je l'apprécie. Je pense que pour les nouvelles technologies et pour ces usages absolument inédits que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter aujourd'hui, il serait contre-productif de se dire la technologie est nouvelle et donc les questions qu'elle pose sont complètement nouvelles. Parce que les questions éthiques nouvelles, une éthique nouvelle, je ne sais pas ce que c'est. Donc moi je pense que même si la technologie est totalement inédite et nouvelle, il faut toujours chercher à construire des ponts, trouver des motifs communs avec les situations que nous avons déjà connues dans le passé. Alors pour la parole inhumaine, est-ce que nous avons déjà vu des êtres qui parlent et qui ne sont pas des êtres humains? Eh ben, on les a vus, entre guillemets, dans les mythes. Ce sont alors des oracles, des anges, des dieux, les êtres non humains qui parlent notre langue, en langue naturelle humaine. Et donc, quand on se pose la question, par exemple, de savoir si un chatbot doit avoir un nom propre, et qu'est-ce que ça veut dire si un chatbot vous dit « je m'appelle Alice » ou « je m'appelle Bob » c'est qui s'appelle Alice ou Bob, hein, finalement?
Mais
là,
est-ce qu'un chatbot va dire « je »
Bah, pourquoi pas, hein. Il y a des chatbots qui sont parfaitement capables de...
Ça veut dire qu'on pourrait les nommer un peu on pourrait les nommer comme on nomme des animaux domestiques, par exemple.
Par exemple. Ou on peut les nommer par une combinaison de chiffres. Bonjour, je suis 30619.
Mais quelle problématique cela pose-t-il?
Pour comprendre ce que cela signifie que de nommer, d'abord, pensons au mythe d'Adam qui nomme les animaux dans le livre de Genèse. Alors, dans le livre de la Genèse, vous savez, l'acte de nommer, ça n'est pas seulement de donner un petit nom pour s'adresser à tel ou tel animal, mais ça crée l'existence même de ces animaux dans le monde humain, en quelque sorte. C'est constitutif. L'acte de nommer, il est constitutif de l'être. Juste pour anecdote, mais vous avez déjà dit, hein, ces anecdotes, ces histoires mythologiques ne sont pas sans signification, hein, elles sont très importantes. Un commentaire rabbinique dit qu'avant d'envoyer les animaux chez Adam pour qu'il les nomme, pour qu'il leur donne des noms, Dieu a demandé la même chose aux anges. Et les anges n'ont pas su nommer les animaux. Juste, ils étaient incapables. Alors pourquoi, peut-on se demander? C'est quoi la différence? Un ange, justement, une sorte de machine, être non humain, un système d'information, et il ne peut pas donner un nom, tandis que l'homme peut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme constitue en nommant ces êtres, ces animaux, l'homme constitue leur existence pour lui, hein, tandis que pour un ange, c'est vide, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de référence à quoi ce nom renvoie. Et on peut interpréter le mythe comme ça. Alors évidemment, maintenant, on peut transposer ce raisonnement sur les chatbots et dire, quand un chatbot dit « je m'appelle Alice » ou « je m'appelle R2D2 », alors qu'est-ce que cela signifie? Rien du tout pour le chatbot, probablement. Il n'y a pas du tout de constitution d'un être comme dans la légende d'Adam.
Oui, mais celui qui dialogue avec ce chatbot va personnaliser le chatbot puisqu'il a un nom.
Exactement. Et c'est la source fondamentale de cette constitution relationnelle de l'être. Ça n'est pas un être ontologique, un chatbot, ça n'est pas une personne, mais en interagissant, en prenant son nom pour quelque chose qui fonctionne pour nous comme les autres noms. Alors là, nous constituons un statut, un être, nous projetons des qualités, un état d'esprit, des émotions sur ce chatbot. Et c'est cet acte, permettez-moi ce mot un peu compliqué, d'anthropomorphisation ou de projection des qualités humaines, justement, qui crée derrière un être, même si nous savons que c'est une machine. Même si on nous a dit, oui, signez ici, s'il vous plaît, il faut que vous signiez, que vous savez que c'est une machine. Bien sûr que nous allons signer, mais nous allons malgré cela projeter des qualités humaines sur cette machine.
Alexis Greenbaum, pour essayer de me comprendre pourquoi et plutôt d'où vient qu'une machine qui parle nous fascine, savez-vous ce qui s'est passé le 11 mars 1878 dans l'amphithéâtre de l'Académie des sciences à Paris?
Ah non, je vous écoute.
Eh bien, tous les yeux étaient rivés, les oreilles tendues sur une curieuse invention, le phonographe, présenté par un représentant de la compagnie Thomas Edison. Dans l'amphithéâtre était présent Camille Flammarion qui raconte ceci. L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors on vit un académicien d'âge mûr, l'esprit pénétré des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Ce membre de l'académie s'appelait Monsieur Bouillot. Fin de citation. Ça veut dire que il y a quelque chose d'insupportable d'entendre une machine parler. Et si je cite cette anecdote, c'est que, comme vous le savez, quelques temps plus tard, Thomas Edison a travaillé à un projet de nécrophone. Il s'agissait de faire entendre l'âme des morts.
Alors, on va parler
Et vous, morts. Vous parlez dans votre rapport des dead bots. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, les dead bots, c'est un sujet fascinant et émergent. Aujourd'hui, on peut entraîner un chatbot avec les données, avec les messages qu'a écrit une personne décédée.
Avant de mourir.
Avant de mourir, bien sûr. Alors, l'ensemble de ces SMS, messages sur WhatsApp, tout Facebook, tout ce que vous voulez, tous les messengers, tous les systèmes. Est-ce que ce chatbot va parler comme cette personne? Oui, mais il ne va pas nécessairement répéter les phrases que cette personne avait débitées, avait dites de son vivant.
Il va inventer les phrases.
Nouveau. Il va faire un discours très ressemblant et original, nouveau. Alors, que devient la mort? Que devient la mémoire des morts? Comme avec ce phonographe qui a déjà changé, je pense pour cet académicien Bouillot, le rapport à la mort, le rapport au temps. Ce que nous disons ne disparaît plus complètement. Mais est-ce que nous disparaissons complètement si nos paroles sont enregistrées? Ça, c'était la question en 1898. Pour nous aujourd'hui, la question est un peu différente. Comment peut-on utiliser un chatbot entraîné sur les données des morts? Est-ce que ça va donner une illusion de que cette personne vit, entre guillemets, encore quelque part?
C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique.
Une sorte de jumeau numérique qui est immortel, alors?
Il y a eu le cas d'un Canadien, d'un jeune homme canadien dont la compagne est décédée et qui a donc utilisé un chatbot pour la
Exactement.
Maintenir en vie, entre guillemets, c'est-à-dire l'entendre tous les jours raconter ce qu'elle avait à dire.
Oui, ça c'est très intéressant. C'est un cas publié dans la presse il y a juste quelques mois, au mois de juin 2021. Un informaticien canadien a créé un chatbot entraîné avec les données de sa petite amie décédée. Il savait parfaitement bien que c'était une machine. Il n'était pas dans l'illusion que c'était elle. Et pourtant, en dialoguant de plus en plus avec le chatbot, quelque part, il a fini par lâcher tous les contrôles. Il était sous une impression, mais très très profonde psychologiquement. Il avait fait ce chatbot lui-même, mais il ne pouvait pas résister à l'émotion.
Mais est-ce que ça ne retarde pas le moment du deuil, justement?
Justement, comment va changer le deuil? Le comité national pilote d'éthique du numérique, il ne propose pas d'interdire cette technologie. Il dit, écoutez, mais peut-être qu'il faut mettre des contraintes. C'est ce que nous proposons. Réfléchissons tous ensemble à des contraintes. Entre l'interdiction et le laisser-faire, il y a tout un tas d'autres options. Par exemple, cette machine peut fonctionner juste pendant un nombre de jours limité, par exemple 30 ou 40 jours après la mort. Ou ces machines ont un nombre de crédits entre guillemets limité. Donc vous pouvez discuter avec un chatbot comme ça, mais pendant un temps limité. Après, il va aussi mourir, lui, il va disparaître. Ou par exemple, pour discuter avec un chatbot de ce type, avec un deadbot, vous devez vous trouver physiquement au cimetière devant la tombe de cette personne. Et par géolocalisation, à ce moment, le chatbot va s'allumer et va discuter avec vous. Bon, tout un tas de contraintes qu'on peut s'imaginer, mais lesquelles sont bonnes? C'est un débat sociétal qui s'ouvre aujourd'hui et il faut y aller.
J'imagine que la réponse à cette question éthique quasiment insoluble, elle dépend des cultures auxquelles on a affaire et que, par exemple, les Japonais n'ont pas le même rapport aux morts que nous. La notion de deuil n'est pas gérée, entre guillemets, de la même façon. Et donc, est-ce qu'il y a place pour une adaptabilité culturelle aux usages des chatbots.
Clairement, clairement. Bon, déjà, avant de parler des chatbots, les rapports à la mort, les rites, le deuil ne se passent pas de la même manière dans différentes cultures, vous le savez. En Asie, au Japon, en Afrique, en Amérique du Sud, même si vous regardez différents pays européens, ce n'est pas la même approche dans les pays orthodoxes, dans les pays catholiques, etc., etc. Avec les chatbots, il y a une question nouvelle qui va sans doute être traitée de manière différente selon les cultures. Mais j'espère que la réponse ne sera pas comme celle qu'a reçue cet informaticien canadien, parce que la société privée américaine qui avait mis à disposition de cet informaticien son grand chatbot GPT-3 a juste coupé l'accès. Elle a juste couper l'accès en disant « Vous n'êtes pas conforme à notre condition d'utilisation, à notre charte d'utilisation. » Bon, j'espère que quand même ce débat ira un peu plus loin et qu'on ne laissera pas les sociétés privées de décider de ces questions-là. Parce que le débat sur la mort, qui est un débat fondamental sur la condition humaine, il mérite d'être mené à l'échelle de toute la société. Et les technologies numériques aujourd'hui posent de nouvelles questions sur la mort et le statut de la mort.
Est-ce qu'il y a des usages des chatbots qui ne posent pas de problèmes éthiques, qui semblent aller de soi et qui sont acceptés à la fois par les utilisateurs sans poser de problèmes éthiques particuliers?
Alors souvent, c'est un certain équilibre qu'on trouve au bout d'un chemin que l'utilisateur et l'ingénieur et le concepteur, bien sûr, font ensemble. J'ai déjà dit, il y a des chatbots qui ne sont pas des systèmes apprenants, qui sont des systèmes déterministes faits, par exemple, pour le suivi d'un médicament ou d'un malade à qui on dit de prendre certains médicaments et de rapporter son état de santé une fois par jour.
Donc il s'agit de répéter des consignes.
Alors là, oui, là, ça ne pose pas beaucoup de
questions. Sans montrer d'impatience.
Bon, exactement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune question, mais il y a assez peu de questions pour ces chatbots déterministes. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer un chatbot généraliste qui peut parler de tous les sujets et qui sera complètement accepté comme un assistant virtuel, comme un petit ami virtuel? Peut-être à l'avenir. Nous n'y sommes pas encore, mais nous savons aussi que le rapport à la technologie évolue. Hein. Les fours à micro-ondes ont commencé dans les années 40 par choquer les gens. Les gens pensaient qu'il y avait un petit Satan dedans là, qui faisait chauffer nos plats. Aujourd'hui, les micro-ondes ne posent pas beaucoup de questions d'éthique. Pour le langage, c'est quand même différent. Le langage est le fondement de notre réflexion, de notre vie en société. Et quand le langage, qui est le nôtre, devient aussi du ressort des machines, nous entrons dans cette nouvelle époque. Alors, cette nouvelle époque qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas complètement nouvelle, parce qu'autrefois, nous avons déjà pensé des anges, des dieux, des démons qui parlaient eux aussi notre langue.
Question pratique, qu'est-ce que je dois faire si un chatbot se met à m'insulter? Est-ce que j'ai le droit de l'insulter?
Alors, une question que je pose à mes étudiants, et les opinions très souvent se divisent. 50% disent, de toute manière, c'est une chose, c'est une machine, vous pouvez bien sûr l'insulter quand vous voulez, malmener quand vous voulez, défoulement complet, ce n'est qu'une machine, elle ne ressent rien. Et d'autres qui disent, oh non, c'est déshonorant, c'est une atteinte à la dignité humaine que d'insulter un chatbot.
Si on lui a donné un petit nom.
Si ce n'est pas un chatbot déterministe, mais une sorte de petit personnage qui vit avec vous, qui discute avec vous. Donc, tout un tas de gens aujourd'hui insultent leur téléphone portable. Vous savez que aujourd'hui, tous les téléphones savent répondre en parlant. Typiquement, les téléphones portables d'aujourd'hui, si vous les insultez, ne vous répondront pas. Ou ils vous diront qu'ils n'ont pas compris ou que c'est triste ce que vous avez dit ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres quand même qui disent non. Par exemple, pour un traitement en psychiatrique, il est important que le patient ait une conversation émotionnelle, engagée avec une machine, que parfois certaines paroles ont un effet thérapeutique, même les insultes. Et donc oui, il y a des types d'usages en psychiatrie par exemple où les insultes ne doivent pas être proscrits, ne doivent pas être interdits. Donc, encore une fois, pas de règle générale. Interdire les insultes dans tous les cas, non. Mais en fonction des usages, une adaptation, une évaluation, une étude qui sont nécessaires. Et c'est pour cela que dans cet avis, nous ne formulons pas uniquement des préconisations. Vous savez qu'un avis d'un comité d'éthique contient toujours des préconisations. Ça, c'est un avis, celui-ci est très particulier, parce que bien sûr, il y a des préconisations. Mais il y a aussi des principes de conception à l'attention des ingénieurs, d'ingénieurs. Et il y a aussi des questions de recherche, des questions pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Il faut faire de la recherche. Et ces questions devraient être étudiées par les chercheurs, autant dans le public que dans le privé.
Mais les ingénieurs, à l'ICI Rimbaud, en général, ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que fait ce qu'ils font. Mmh. Et donc, il y a des usages qui peuvent leur échapper parce que ces usages ne sont pas prévisibles.
Totalement. Et là, au même niveau de la conception. Exemple. Il y a même un exemple très connu avec un chatbot en 2016 qui a été très bien construit. Techniquement parlant, il devait maximiser l'engagement de l'utilisateur, faire en sorte que l'utilisateur lui parle le plus longtemps possible. Et ben, ce chatbot, entre guillemets, lui-même, a découvert en quelques heures que la meilleure manière de faire durer une conversation, c'était de, encore une fois, insulter l'utilisateur. Parce que paraît-il que quand on insulte quelqu'un,
il répond.
Et donc, si vous voulez que la conversation dure, il faut insulter. Bon, évidemment, c'est un problème éthique majeur, mais les ingénieurs, les concepteurs ne l'avaient pas vu au moment de la conception. Donc oui, on peut pas dire que le concepteur va tout savoir. Ces machines, parfois, et même très souvent, nous font des surprises. Et on le souhaite. On fait aujourd'hui de l'apprentissage machine pour être surpris, pour que les machines fassent des phrases étonnantes. C'est notre souhait.
D'abord, dans votre rapport, Alexis Rimbaud, combien y a-t-il de préconisations et y en a-t-il une ou deux qui sont plus saillantes que les autres?
Alors, je crois qu'il y a une dizaine de préconisations, il y a une dizaine de principes de conception et une dizaine de questions de recherche. Plus précisément, il y a 13 préconisations. Alors, parmi ces préconisations, il y a les grands sujets que vous avez déjà évoqués. Les insultes, le mensonge, il y a des questions liées aux deadbots, ces chatbots qui parlent comme les personnes, comme les défunts. Mais il y a aussi des questions dont la société aujourd'hui devrait saisir très sérieusement. Les chatbots et le travail, par exemple. Une grande société reçoit plusieurs milliers de CV de postulants qui souhaitent travailler par semaine, des gens qui souhaitent travailler pour telle ou telle société. Alors, est-ce qu'il est possible d'analyser ces CV de manière automatique par des systèmes de traitement de langue naturelle? Est-ce que ça change quelque chose? Déjà, ça commence à exister. Il y a déjà aujourd'hui des startups qui proposent ce type de solution. Mais comment change le travail? Comment change le marché du travail avec les chatbots? Ce sont des questions qui nous intéressent aussi.
Non seulement le travail, mais aussi les interactions humaines au travail.
Les interactions humaines au travail, vous savez, il y a quelques semaines, un cabinet de consulting a publié un avis qui disait, une étude même, qui disait que les gens au travail sont ravis d'interagir avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors clairement, il y a des résultats très intéressants, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de craintes. Et c'est toujours comme ça avec des technologies nouvelles. Alors, il y a des promesses, il y a même de l'émerveillement, et de l'autre côté, il y a des risques, il y a des craintes, il y a des problèmes de confiance. Et je pense que nous allons faire du chemin ensemble, mais encore une fois, plutôt que d'interdire des choses, il faut encadrer, il faut mettre des contraintes, et c'est l'objectif premier de cet avis.
Est-ce que la publication de cet avis a engendré des réactions qui vous ont surpris?
Oui, quelques-unes. Beaucoup d'industriels nous ont dit « Ah, nous, on fait des chatbots déterministes qui ne posent pas de questions éthiques. De toute manière, tout cela est déjà en place. Tout va bien, madame la marquise. » Eh ben, je pense que beaucoup d'industriels qui travaillent avec des chatbots aujourd'hui ne se rendent pas compte de l'effet de la dernière révolution des transformeurs, de ces systèmes qui génèrent de la parole indistinguable de celle de l'homme. et de tout ce qui va arriver dans les prochaines années.
Merci Alexis Greenbaum. J'imagine que ce rapport est consultable sur Internet.
Tout à fait.
Avis numéro 3, agent conversationnel, enjeu éthique. Merci d'être venu nous montrer que toute question éthique engendre quelque hésitation. D'ailleurs, c'est l'anagramme. Question éthique a pour anagramme quelque hésitation, ainsi que me l'a révélé Olivier Garcia, que je remercie. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Dimitri Paz et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.